Le journal présenté par Noïla Luzitu Kabambi.
Plus de 331 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la RDC avec 923 victimes ont été documentées par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour le mois d'août dernier, soit une réduction de 17% du nombre de cas de violations enregistrés au mois de juillet 2024. Le 7 et 9 octobre courant, des rebelles centrafricains de la Séléka ont tué au moins 3 personnes, dont un homme et son fils de 12 ans, dans la chefferie Mopoi, secteur de Banda, territoire d'Ango. Les habitants vivent encore dans une certaine psychose à cause de l'errance de ces rebelles dans différents villages de la province du Bas-Zouélé. Jules Mugiraneza est l'invité de ce journal. Le député national élu des Massissi au Nord-Kivu souligne, sur base des témoignages des rescapés du naufrage du 3 octobre dernier sur le lac Kivu, les failles du secteur de navigation à RDC, particulièrement au Nord-Kivu. Bonsoir à tous. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dit avoir documenté 331 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la RDC, avec 923 victimes au cours du mois d'août dernier. Ces chiffres correspondent à une réduction de 17% du nombre de violations et d'atteintes documentées par rapport au mois de juillet. Selon son communiqué de presse publié ce vendredi, le BNCUNDH indique que cette réduction reflète une diminution du nombre de violations et atteintes documentées dans les provinces en conflit. D'autres détails dans cet élément de Grâce Amzati rendu par Jacques-Yves Molima.
Dans les provinces en conflit, le BCNIDH a documenté 287 violations et atteintes aux droits de l'homme, ce qui représente une diminution de 18% par rapport au mois précédent où 340 cas avaient été enregistrés. Le bureau constate également une diminution du nombre de victimes de 23%. Ainsi, pour ce mois d'août, le BCNIDH a enregistré 743 victimes. Par ailleurs, dans les provinces non affectées par le conflit, le BCNIDH a documenté 43 violations et atteintes aux droits de l'homme, soit une diminution de 28%. Ce fait reflète la baisse au cours de la période en revue des cas de violation du droit à la liberté de la personne dans la province du Haut-Katanga, où il a été enregistré 16 cas de moins. En outre, le BCNIDH a enregistré pour le mois en revue 12 incidents de violences sexuelles liés au conflit avec 20 victimes, toutes des femmes. L'enlèvement a été la violation la plus fréquente, suivie du recrutement et utilisation, du meurtre et mutilation, des violences sexuelles et des attaques contre les écoles et hôpitaux. Toutefois, le BCNIDH dit avoir poursuivi l'accompagnement au gouvernement et à la société civile congolaise dans la promotion et la protection des droits de l'homme.
Toujours à Kinshasa, dépôt hier jeudi au bureau du Sénat de la proposition de loi portant prévention et répression de toutes les formes de discrimination et de violence faites à la femme. Son auteur, le deuxième vice-président du Sénat, cherche à travers cette initiative parlementaire, dit-il, à promouvoir les droits de la femme tant en famille qu'au niveau professionnel, passant par les écoles et les universités. Pour Modeste Bahati-Lukwebo, il n'est pas acceptable que les femmes continuent de subir des discriminations au niveau de l'héritage, de la scolarité et même de la promotion et des avantages au travail. Modeste Bahati-Lukwebo est au micro de Michel Kifindangoy.
Comme vous le savez, à part le viol qui est déjà réprimé par le code pénal, beaucoup d'autres formes de discrimination existent dans nos familles. Très souvent, même pour l'héritage, on a tendance à discriminer les filles par rapport aux garçons. Il y a aussi le droit à la reproduction. On doit quand même réguler, ne fût-ce que le nombre de naissances. Il existe la convention sur les droits de la femme, mais également des enfants, même dans le foyer, à l'école, dans les milieux professionnels, ne fût-ce que en ce qui concerne les promotions, on a tendance à promouvoir facilement et rapidement. Les hommes et les femmes sont toujours retardés, même en matière de rémunération. Vous sentez qu'il y a toujours une discrimination. Et moi, j'ai tenu à ce qu'il y ait une loi qui puisse protéger les femmes, y compris en ce qui concerne la procédure et la saisine en matière judiciaire.
Et puis parlons de ce drame qui défrait la chronique ces derniers jours. Il s'agit de la disparition d'Alexandra Martine Diengolumbai, étudiante congolaise décédée au Canada. Merveille Emongo, journaliste d'origine congolaise habitant Montréal, rapporte que les étudiants sont partagés entre tristesse et colère parce que n'ayant pas encore eu des réponses sur ce qui est réellement arrivé à Alexandra avant la découverte de son corps sans vie. Cette tragédie, selon elle, met en lumière la précarité et le danger auxquels sont confrontés les immigrés. Quel est le sentiment qui règne au sein de la communauté congolaise du Canada? Merveille Emongo l'exprime au téléphone de Blaise Makassi.
J'étais sur les lieux du drame et je vis l'émotion de tous ces étudiants qui s'étaient rassemblés en attendant la nouvelle de leur sœur, collègue Alexandra Martine. La découverte tragique du corps d'Alexandra a profondément touché notre communauté congolaise. Cet événement va au-delà d'une simple tragédie personnelle. Il soulève des questions très très importantes sur la sécurité des immigrés et la solidarité au sein de notre diaspora. Je peux bien vous assurer qu'après la mort d'Alexandra Martine, la communauté congolaise est très très touchée. Que dire des étudiants qui jusque-là expriment encore une grande tristesse et beaucoup de colère par rapport à cette situation. Beaucoup se posent des questions sans réponse jusqu'à présent. De quelle façon Alexandra Martine est décédée. Il ressort que ce drame met en lumière la précarité, les dangers auxquels sont confrontés les immigrés. Tout le monde maintenant a peur de sortir. Tout le monde s'est dit, au cas où je sors, qu'est-ce qui peut m'arriver?
Je vous le disais dans le sommaire, dans la province du Bas-Uele, au moins 3 personnes ont été tuées par des rebelles centrafricains de la Seleka après leur incursion le 7 et le 9 octobre courant dans la chefferie Mopoi, secteur de Banda, territoire d'Ango. Les habitants vivent encore dans une certaine psychose à cause de l'errance de ces rebelles dans différents villages de ce coin de la RDC. À cet effet, la société civile locale plaide pour le renforcement des effectifs militaires dans cette région. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Parmi les victimes de ces rebelles centrafricains figurent un jeune homme de 35 ans et son fils âgé de 12 ans, élève à l'école primaire d'Indo. Pour s'être déclaré fatigué, ils ont été ligotés contre un arbre avant d'être fusillés le 9 octobre au village Samungu, rapporte la société civile locale. Poursuivant leur chemin, ces rebelles ont enlevé 4 autres personnes. Cette structure citoyenne craint que le nombre de victimes n'augmente parce que, déclare Théo Zarbina, on avait entendu le crépitement de balles quelques temps après le départ avec leurs otages vers une destination inconnue. Bien avant ce double meurtre, les Seleka ont abattu mardi dernier un homme de 37 ans à la rivière Loï après avoir été chassé par 2 éléments FRDC en poste à Banda, mais se trouvant en ce moment-là dans ce village. Quelques 4 otages utilisés comme transporteurs avaient réussi à s'échapper lors de cette intervention. Nous n'avons pas réussi à joindre l'administrateur du territoire d'Ango pour confirmer ou infirmer ces allégations. Qu'à cela ne tienne, la société civile de Banda plaide pour le renforcement des militaires FRDC dans cette zone afin de sécuriser la population contre les incursions récurrentes des groupes armés étrangers dans leur contrée. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, le président des déplacés de Kanyaruchina alerte sur les mauvaises conditions de vie des déplacés internes venus récemment de Kinyandoni dans le territoire de Rutshuru. Ces personnes vulnérables ont fui les affrontements qui opposent régulièrement le M23 aux présumés combattants du groupe rebelle FDLR dans leur village. Pour Théo Moussekoura, ces déplacés estimés à plus de 1200 ménages n'ont reçu aucune assistance en vivres ou encore en non-vivres jusque-là. Ils vivent dans des conditions précaires, dans des églises et des écoles durant cette période pluvieuse. Il plaide auprès du gouvernement et de la communauté humanitaire pour une assistance d'urgence en leur faveur. Théo Moussekoura est au micro de Bernardine Diambou.
Nous ne cessons d'informer qu'ici à Kanyaruchinya, nous éprouvons beaucoup de difficultés. Les déplacés continuent d'arriver en provenance de Binza à Kiseguro, Nyandoni. Ils fuient les affrontements entre les M23 et les FDLR. C'est pour dire que les déplacés affluent à cause de la guerre. La population est victime de plusieurs dégâts collatéraux de cette guerre. Pour le moment, nous avons enregistré plus de 1200 ménages qui sont déjà arrivés. Ils sont partis dans différents sites. Ils ont tout abandonné. Ils n'ont pas de couverture, ni des ustensiles de cuisine, même pas d'abri. En tout cas, ils sont dépourvus de tout. Ici, certains ont eu refuge dans des écoles, tandis que d'autres dans des hangars. Nous demandons à notre gouvernement ainsi qu'aux humanitaires de venir les assister avant que les pires n'arrivent.
La vaccination contre la poliomyélite concerne les enfants de 0 à 59 mois de la province de Maïndombé. Au moins 457 200 enfants sont attendus pour la quatrième phase de cette campagne de vaccination des masses qui se déroule du 10 au 12 octobre en cours. Ces statistiques ont été données par le chef de division provinciale de la santé de Maïndombé, Dr Francis Campbell, lors du lancement de la dite campagne hier à Inongo par le gouverneur de province, le bon Kosokevani. Dr Francis Campbell est au micro de Irène Mbomaluzolo.
Alors que la République démocratique du Congo a été déclarée libre de circulation du poliovirus sauvage en novembre 2015. Cela impose donc les campagnes de vaccination pour riposter. Maïndombé est de 457 201 enfants de 0 à 59 mois qui sont attendus pour ce passage de la vaccination. Et la mise en œuvre de ce passage pour le nouveau VPO qui est prévu du 10 au 12 octobre 2024. Le nouveau vaccin poliovirus de type 2 sera utilisé en stratégie porte à porte et d'autres stratégies spécifiques seront utilisées dans le but d'atteindre tous les enfants cibles et éviter ainsi de trouver les enfants 0-12. La prise en charge de tous ces prestataires qui passeront de ménage en ménage est assurée par l'OMS et l'UNICEF pour l'effectivité de cette campagne. Que ces partenaires soient rassurés de notre reconnaissance pour les efforts consentis. Les prestataires qui passeront dans le ménage ne manquent ne manqueront pas de sensibiliser la population sur l'épidémie des Mpox.
Toujours en santé au Nord Kivu, des cas de VIH-Sida et de tuberculose ont été détectés dans les prisons de Kangbayi à Beni et de Kakwangura à Butembo. Le responsable de la sous-coordination du programme national de lutte contre le Sida, PNLS, dans la région de Beni, Butembo et Lubero, l'a annoncé ce vendredi à Radio Okapi. Dr Nikes Maté, qui craint une contamination et une propagation aux autres détenus, plaide pour l'accès aux soins des malades et l'organisation des campagnes de dépistage dans ces deux prisons. Il est au micro de Martial Papi Mukeba.
Nous avons détecté des cas de tuberculose, des cas de VIH dans nos prisons. Mais vous savez que les deux maladies sont jumelles. Ce qui fait qu'il est probable que la tuberculose puisse influencer l'évolution du VIH et que le VIH influence l'évolution de la tuberculose. Nous avons peur qu'il ne puisse pas avoir de soins et une fois sorti, qu'il ne puisse également contaminer la communauté. En premier lieu, nous avons donné des ARV pour ceux qui sont positifs et nous avons essayé un peu de renforcer en test. Mais nous avons besoin qu'il y ait des pères éducateurs dans ces établissements qu'il faut continuer à sensibiliser les détenus. Et une fois que les détenus sont sensibilisés, il faut que les soins soient disponibles, donc les dépistages qui soient disponibles et que les ARV également soient disponibles. Voilà pourquoi j'ai formulé ce plaidoyer, pour que nous puissions avoir la facilité d'accès et que les interventions puissent accéder à ces malades. Et si nous avons des appuis avec la MONUSCO, CICR, nous pouvons organiser une formation pour les pères éducateurs et une campagne de dépistage.
Dans le chapitre de l'éducation formelle, notez que la synergie des syndicats des enseignants de la RDC a saisi ce vendredi le ministre d'État en charge de la justice pour déplorer les diverses menaces que subissent ses membres. Dans sa correspondance, cette organisation syndicale regrette que des enseignants soient menacés par leur chef hiérarchique pour les obliger à reprendre le chemin de l'école alors que la grève est garantie par la Constitution dans son article 39. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Dans cette correspondance de plusieurs pages, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC indique avoir reçu plusieurs plaintes de leurs membres disséminées à travers les provinces éducationnelles du pays. Cette structure cite entre autres des enseignants de la Tchopo, du Maïndombé, de Kinshasa, du Nord et Sud Kivu, qui nécessitent la sécurité du gouvernement pendant cette période de la grève. Parmi ces menaces, signalent les porte-parole de cette synergie, il y a des inspecteurs qui veulent désactiver certains enseignants des listings de paye et d'autres enseignants disent même recevoir par voie téléphonique des menaces de mort par des personnes non autrement identifiées. Jean Bosco Puna a à cet effet rappelé que les enseignants, comme tout Congolais, ont le droit de revendiquer pacifiquement leurs droits, comme stipule la Constitution dans son article 39. Dans cette même lettre, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC sollicite des deux chambres du Parlement la révision à la hausse du budget du secteur de l'éducation afin que des enseignants bénéficient des salaires dignes.
Actualité internationale. Au Cameroun, le gouvernement interdit les débats dans les médias sur l'état de santé de Paul Biya. L'absence prolongée du président camerounais de 91 ans, qui n'a fait aucune apparition publique depuis le début du mois de septembre, a suscité des inquiétudes, des questions, puis des rumeurs alarmantes. Tout débat sur l'état de santé du président est désormais formellement interdit, a donc indiqué Paul Atanganji, ministre camerounais de l'administration territoriale, dans un communiqué diffusé hier.
L'invité.
Retour sur le drame survenu le 3 octobre sur le lac Kivu, près du port de Kituku à Goma, au nord Kivu. Après avoir échangé avec les rescapés et les familles des victimes, le député national élu de Masisi, Jules Mugiraneza, parle de plusieurs éléments comme cause de cet accident, notamment la surcharge, le mauvais état du bateau et aussi la négligence des services étatiques. Il est l'invité de ce journal et il revient sur les témoignages des victimes et des failles observées dans le secteur de la navigation. Il s'entretient avec Sifa Maguro.
Honorable Mugiraneza Jules, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu compatir avec la population à la suite du naufrage qui est survenu sur le lac Kivu le 3 octobre. Quel constat avez-vous fait?
Moi, comme élu de Masisi, sachant que la population de Goma, de Masisi, de Kare aussi, du Kivu sont les plus concernés, j'ai décidé de venir présenter mes condoléances et consoler les familles des victimes de ce naufrage.
Est-ce que vous avez visité les familles? Quels sont les témoignages que vous avez recueillis?
Je suis directement allé d'une famille à une famille où il y avait des cas de décès ou des cas de rescapés et j'ai obtenu certains témoignages. Je vous assure que c'est difficile à entendre. Je ne prends que deux témoignages. L'une est venue d'une maman qui a été miraculeusement rescapée. Il était parti avec son enfant, avec sa petite sœur et son enfant, et avec une dame garde de bébé. Au retour, elle me raconte qu'ils sont entrés dans le bateau entassés comme des sardines. Ils étaient nombreux parce qu'ils attendaient deux bateaux. Il n'y a qu'un seul bateau qui s'est présenté. Ils sont entrés dedans. Le bateau a commencé à faire des secours aux approches de Nzulu. Et il a fait un tour, s'est redressé un autre tour. Il s'est repris, ils ont commencé à crier, à prier. Mais le troisième tour, il s'est renversé, ils étaient dedans. Et il a commencé à se battre, il ne sait pas nager, il n'a pas de gilet non plus. Jusqu'au moment où son bébé a lâché, le bébé est tombé et il a continué. À un moment donné, on a tendu une corde, je crois que ça venait d'une équipe de sauvetage des Sud-Africains. Ils ont tenu la corde à 5 avec le mouvement de l'eau et tout ça. Il y en a où les têtes tapaient sur les bateaux, les têtes sont écrasées, 3 sont tombées et 2 sont sorties et il est sorti miraculeusement indemne. L'enfant était mort mais il était soulagé de voir les corps de cet enfant. Il y a 4 personnes qui sont décédées dans la famille. Un autre cas, un papa qui a perdu 7 membres de famille. Ils se sont retrouvés là-bas en famille et puis ils ont décidé de rentrer tous ensemble. Et il n'y a pas de survivants et on n'a pas retrouvé le corps. Le papa est inconsolable. Et c'est d'ailleurs ce papa qui m'a interpellé, me permettant même de comprendre les causes de cet accident. Il dit, mais honorable, est-ce que nous avons un gouvernement? On a un bateau qui a fait plusieurs pannes sur le lac qu'on connaît.
Auparavant.
Et on a continué encore à l'utiliser. Comment le bateau fait des surcharges pour des centaines de personnes alors qu'il y a tous les services de l'État à Minova. Donc c'est parmi les grandes causes là. Le bateau a mauvais état, les responsabilités des gouvernements parce que ça s'est passé sous le regard complice des autorités étatiques et en présence à Minova.
Ce naufrage là dramatique vient soulever plusieurs questions sur la navigation entre Goma et Bukavu.
Non, je crois que le secteur de transport sur le voie maritime, le voie lacustre surtout, et fluvial, pose problème chez nous parce qu'il y a des accidents pareils, mais pas de cette ampleur. Mais il y en a eu aussi ailleurs. Et je crois qu'il revient de notre responsabilité comme député national et demander au pouvoir central de bien nous éclairer quant à ce. Mais la spécificité sur le lac Kivu, c'est qu'on sait que le bateau n'est pas en bon état, semble. Les informations à ma possession, c'est qu'on avait déclassé, interdit de naviguer sur le lac. Mais on laisse faire. Les gens entrent sur le bateau comme les gens qui se bousculent pour entrer dans un stade, se plaint. On laisse faire. Puis la route qui est une voie ici, l'alternative crédible, on ne l'ouvre pas.
Donc le bateau-là était interdit de naviguer?
En tout cas, j'ai eu des informations qui ont dit que ce bateau ne pouvait plus naviguer, n'était pas mis en bon état. Il ne peut pas aller à Bukavu. Il a choisi, je ne sais pas par l'autorisation de qui, de faire les petits tronçons Kituku,
dans le village tout autour, oui, au bord du lac.
Au bord du lac. Mais qu'il a déjà fait des pannes, selon les témoins,
sur le lac.
Mon père a vu mon vieux dépanner et puis après il arrive. Et on continue à accepter qu'il fasse ça. Je crois qu'il y a une certaine irresponsabilité.
Vous, en tant que député, quand même, il y a des lois qui sont là, il y a des mesures qui ont été prises sur papier, mais qui souffrent d'application.
Nous avons même une commission spéciale chargée de faire le suivi de l'application des lois et des résolutions que nous prenons à l'endroit du gouvernement. Quand je rentre à Kinshasa, je crois qu'on va continuer. J'ai entendu le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a demandé qu'on connaisse les nombres réels des victimes pour éviter des controverses. Donc, c'est pas une question qui va s'arrêter aujourd'hui.
Merci beaucoup, Monsieur Jules Mugiraneza.
Je vous en prie.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, c'était Noëlla Luzito Kabambi. Mimi Kindo a assuré la mise en onde dans une coordination de Alain Irung Mushinj. Restez à l'écoute des autres programmes de l'antenne Soir de Radio Okapi.